Montaigne, livre 3, chapitre 5 des Essais, sur des vers de Virgile. À mesure que les pensées utiles se font plus pleines et plus fermes, elles se font aussi plus encombrantes et plus pénibles. Le vice, la mort, la pauvreté, les maladies sont des sujets graves et qui nous pèsent. Notre âme doit être instruite des moyens de combattre les maux et de s'y opposer, instruite des règles du bien vivre et du bien croire. Il faut souvent l'éveiller à cette belle étude et l'y exercer. Mais pour une âme ordinaire, il faut que ce soit avec modération et en faisant des pauses, car elle se fatigue si elle est continuellement sollicitée. Dans ma jeunesse, j'avais besoin de me chapitrer et de faire des efforts pour me tenir dans le droit chemin. L'allégresse et la bonne santé ne s'accordent guère, dit-on, avec des pensées sérieuses et sages. Mais je suis à présent dans un état différent. Les conditions de la vieillesse ne me chapitrent que trop, me rendent plus sage, me font la leçon. De l'excès de gaieté, je suis tombé dans l'excès de sévérité, plus fâcheux. C'est pourquoi je me laisse maintenant volontairement un peu aller à la légère. Mon âme est quelquefois occupée par les pensées de jeunesse, folâtre et si complet. Je ne suis désormais que trop certain, trop lourd, trop mûr. Les années m'apprennent chaque jour la froideur et la modération. Mon corps fuit les dérèglements, il les craint. C'est maintenant son tour de guider mon esprit vers l'amendement. C'est lui qui, à son tour, commande et plus rudement, plus impérieusement. Il ne me laisse pas une heure que je dorme ou veille sans m'instruire sur la mort, la patience, la pénitence. Je me défends donc contre la tempérance, comme je le fis autrefois contre la volupté. Elle me tire trop en arrière, jusqu'à l'engourdissement. Et maintenant, je veux être maître de moi en toutes choses. La sagesse a ses excès et n'a pas besoin de modération que la folie. C'est pourquoi, de peur que je ne sèche, tarisse et ne m'appesantisse de sagesse dans les intervalles de répit que me laissent mes maux, de crainte que mon âme ne soit toujours occupée de ces maux, je me détourne tout doucement, je dérobe à ma vue ce ciel chargé orageux que j'ai devant moi. Et si, Dieu merci, je le considère sans effroi, ce n'est pas sans effort et sans application, alors je me distrais en me souvenant de ma jeunesse passée. Mon âme désire ce qu'elle a perdu et se réfugie tout entière dans le passé. Pétrone. Que l'enfance regarde devant elle et la vieillesse en arrière, n'est-ce pas là ce que signifiait le double visage de Janus ? Que les années m'entraînent si elles veulent, mais à reculons. Tant que mes yeux peuvent apercevoir ces deux belles saisons passées, je les dirige vers elles par intervalles. Si elles s'échappent de mon sang et de mes veines, je veux du moins ne pas en déraciner l'image dans ma mémoire. C'est deux fois vivre que de jouir de sa vie antérieure, a dit Martial. Platon prescrit aux vieillards d'assister aux exercices, danses et jeux de la jeunesse, pour profiter, grâce aux autres, de la souplesse et de la beauté du corps qu'ils n'ont plus, et rappeler à leur souvenir la grâce et les avantages de cet âge vert. Il veut aussi que, dans ces fêtes, on attribue la victoire au jeune homme qui aura le plus distrait et réjoui le plus grand nombre d'entre eux. Je marquais autrefois les jours pénibles et sombres comme des jours extraordinaires. Ce sont aujourd'hui pour moi des jours ordinaires, et ce sont les beaux et sereins qui sont extraordinaires. Me voilà sur le point de sauter de joie comme s'il s'agissait d'une faveur, quand rien de mauvais ne m'arrive. Si je me chatouille, je ne puis même plus arracher un pauvre rire à ce méchant corps. Je ne me réjouis plus qu'en imagination et en rêve, pour détourner de moi, par la ruse, le chagrin de la vieillesse. Mais il faudrait certes un autre remède que celui de la rêverie. C'est une faible lutte, celle que l'artifice peut opposer à la nature. C'est une grande sottise que d'anticiper ainsi allongée, comme tout le monde le fait, les petites misères humaines. J'aime mieux être vieux moins longtemps que d'être vieux avant l'âge. J'empoigne jusqu'aux moindres occasions de plaisir que je peux rencontrer. J'ai bien ouï dire de plusieurs sortes de plaisirs prudents, forts et honorables, mais ce que j'en sais n'a pas assez d'effet sur moi pour m'en donner l'appétit. Je ne les veux pas tant grandioses, magnifiques et fastueux, que suaves, faciles et disponibles. Nous nous écartons de la nature, dit Sénèque, en suivant le peuple qui n'est en rien un bon guide. Ma philosophie réside dans l'action, dans la pratique naturelle et immédiate, peu dans la spéculation. Ah, si je pouvais prendre du plaisir à jouer aux billes et à la toupie. Il ne plaçait pas la rumeur publique avant son salut, écrit Cicéron. Le plaisir est une qualité de peu d'ambition. Il s'estime assez riche par lui-même, sans avoir besoin d'y ajouter le prix de la réputation, et préfère rester dans l'ombre. Il faudrait donner le fouet à un jeune homme qui s'amuserait à distinguer les goûts de vin et des sauces. Il n'est rien que j'ai jamais moins su et moins aimé à faire, mais à l'heure qu'il est, je l'apprends. J'en éprouve bien de la honte, mais qu'y faire? J'ai encore plus de honte et de dépit envers les causes qui m'y poussent. C'est à nous de rêvasser, de magnauder, et à la jeunesse de veiller à sa réputation et de se pousser. Elle va vers le monde, vers la reconnaissance. Nous en venons. Pour eux, dit Cicéron, les armes, les chevaux, les lances et les massues, et à eux la balle, la hanache et la course à pied, qu'on nous laisse à nous les vieillards, les dés et les osselets. Les lois d'elles-mêmes nous renvoient à la maison. Je ne puis faire moins pour cette misérable condition vers laquelle l'âge nous pousse que de lui fournir les jouets et les amusettes de l'enfance, et c'est en enfance que nous retombons. Sagesse et folie y auront fort à faire pour me soutenir et me secourir, chacune leur tour en cette calamité du grand âge. À tes pensées sérieuses mêle une courte folie, Horace. J'essaye même d'éviter les plus légères piqûres, et celles qui autrefois ne m'auraient même pas égratigné, maintenant me transpercent. Mais voilà maintenant toujours exposé au mal. La moindre atteinte est odieuse à un corps frêle, Cicéron, et une âme malade ne peut rien supporter de pénible, Ovid. J'ai toujours été très sensible à la douleur, j'y suis plus encore à l'heure qu'il est, et exposé à elle de tous côtés. La moindre force peut briser ce qui était déjà fêlé, Ovid. Si mon jugement m'empêche de m'insurger et de grogner contre les inconvénients que la nature me contraint de supporter, il ne m'empêche pas de les ressentir. Moi qui n'ai d'autre but que vivre et me réjouir, je courrais d'un bout à l'autre du monde à la recherche d'une bonne année de tranquillité plaisante et enjouée. Je ne manque pas de tranquillité sombre et inerte, mais elle m'ennuie et m'endort. Je ne peux m'en contenter. S'il y a quelqu'un des gens de bonne compagnie, au champ, à la ville, en France ou ailleurs, qu'il soit casanier ou d'humeur voyageuse, à qui convienne mon caractère et dont le caractère me convienne, ils n'ont qu'à siffler dans leurs doigts, et je leur fournirai des essais en chair et en os. Puisque c'est le privilège de l'esprit que de se sortir de la vieillesse, je lui conseille autant que je le puis de le faire, qu'il verdisse et fleurisse pendant ce temps, s'il le peut, comme fait le gui sur un arbre mort. Je crains que ce ne soit un traître, car il est si étroitement abrimé au corps, qu'il m'abandonne sans cesse pour le suivre dans ses misères. Je le flatte à part, je persuade en vain. J'ai beau essayer de le détourner de cette connivence, lui présenter Sénèque et Catulle, les dames et les danses royales. Si son compagnon a une crise de colique, il semble qu'il l'ait aussi. Et les capacités qui lui sont propres ne veulent pas alors se manifester. Elles sont à l'évidence cathareuses, elles aussi. Il n'y a pas d'allégresse dans les productions de l'esprit s'il n'y en a pas en même temps dans le corps. Nos maîtres ont tort. Cherchant les causes des élans extraordinaires dans notre esprit, outre ce qu'ils attribuent au ravissement divin, à l'amour, à la fureur guerrière, à la poésie, au vin, ils n'ont pas donné sa place à la santé. Une santé débordante, vigoureuse, pleine mais sereine, comme autrefois la verdeur des ans et la sécurité, me la fournissait par moments. Ce feu de gaieté suscite en l'esprit des éclairs vifs et brillants, au-delà de nos clartés naturelles, qui en sont parmi nos enthousiasmes les plus gaillards, sinon les plus éperdus. Ce n'est pas étonnant si l'état contraire fait s'effondrer mon esprit, le cloue sur place et produit sur lui un effet désastreux. Il ne se lève pour aucune besogne et languit avec le corps. Et cet esprit veut pourtant que je lui sois reconnaissant, parce qu'il m'accorde à ce qu'il dit moins d'importance à cette entente avec le corps que ne le veut l'usage ordinaire chez les hommes. Mais au moins, pendant les trêves, chassons les maux et les difficultés de nos rapports avec les autres. Tant qu'elle le peut encore, que la vieillesse déride son front. Il vaut mieux égayer la tristesse par des plaisanteries. Horace. J'aime que la sagesse soit gaie et sociable, et je fuis la dureté et l'austérité des mœurs. Je tiens pour suspecte toute mine rébarbative, et la triste arrogance d'un visage renfrogné et cette foule d'aspect sévère à elle aussi ses débouchés, dit Martial. Je crois volontiers Platon quand il dit que le caractère facile ou difficile ont une grande influence sur la qualité de l'âme. Socrate montra toujours le même visage, serein et souriant, à l'opposé du vieux Crassus, toujours grincheux, et qu'on ne vit jamais rire. La vertu est une façon d'être agréable et gaie. Je sais bien que parmi les gens qui feront la grimace devant la licence de mes écrits, il en est bien peu qui n'auraient à faire eux-mêmes la grimace devant la licence de leurs pensées. Je suis en accord avec ce qu'ils sont, mais j'offense leurs yeux. Il est de bon ton de tailler dans les écrits de Platon et de glisser sur ses prétendues relations avec Phédon, Dion, Stella, Arkenassa. N'ayons pas honte de dire ce que nous n'avons pas honte de penser. Je déteste les esprits hargneux et tristes qui glissent par-dessus les plaisirs de la vie, se complaisent dans le malheur et s'en repaissent. Comme les mouches qui ne peuvent tenir sur un objet bien poli et bien lisse, mais s'attachent et se collent aux endroits rugueux et raboteux, et comme les ventouses, qui n'attire et n'aspire que le mauvais sang. Du reste, je me suis imposé d'oser dire tout ce que j'ose faire, et il me déplaît que certaines de mes pensées soient impubliables. La pire de mes actions me semble moins laide et lâche que le fait de ne pas oser l'avouer. Chacun de nous est discret dans sa confession. Il faudrait l'être dans l'action. La hardiesse nécessaire pour commettre une faute est en quelque sorte compensée et limitée par la hardiesse nécessaire pour la confesser. Celui qui s'obligerait à tout dire s'obligerait à ne rien faire de ce qu'il est contraint de taire. Dieu veuille que cet excès qui consiste chez moi à tout dire conduise mes contemporains jusqu'à la liberté, au-delà de ces vertus peureuses et de façades qui sont dues à nos imperfections, y compris de mon immodération, je les amène à la raison. Il faut accepter de voir ses vices et les étudier pour en parler. Ceux qui les cachent aux autres se les cachent en général à eux-mêmes et ne les considèrent pas comme assez cachés s'ils les aperçoivent. Ils les ôtent et les dérobent à la vue de leur propre conscience. Pourquoi, dit Sénèque, aucun homme n'avoue-t-il ses défauts et ses vices? Parce qu'il en est encore esclave. Il faut être éveillé pour raconter ses rêves. Les maux du corps deviennent plus évidents en s'accroissant. Ce que nous appelions rhume ou foulure, nous découvrons que c'est la goutte. Les maux de l'âme deviennent plus obscurs en devenant plus forts. C'est celui qui en est le plus atteint qui les ressent le moins. C'est pourquoi il faut souvent les ramener au jour d'une main impitoyable, les ouvrir et les arracher du fond de notre poitrine. Comme il en est pour les bienfaits, pour les mauvaises actions, la simple confession suffit parfois à faire réparation. Y a-t-il dans la faute commise quelque laideur qui puisse nous dispenser de la confesser? J'ai bien de la peine à faire semblant. C'est pourquoi j'évite de recevoir en garde les secrets d'autrui, car je n'ai guère le goût de dissimuler ce que je sais. Je puis le taire, mais je ne peux le nier, sans effort et sans contrariété. Pour être vraiment secret, il faut l'être par nature et non par obligation. Et dans le service des princes, c'est peu d'être secret si l'on n'est pas menteur aussi. Celui qui demandait à Thalès du Milet s'il devait nier solennellement s'être livré à la débauche, si c'était à moi qu'il s'était adressé, je lui aurais répondu qu'il ne devait pas le faire, car mentir me semble encore pire que la débauche. Thalès, de son côté, lui conseilla de jurer pour cacher un grand vice sous un moindre. Et pourtant, ce conseil ne consistait pas dans à choisir entre deux vices qu'à les multiplier. On peut donc faire cette remarque en passant qu'on propose un marché convenable à un homme de conscience quand on lui propose quelques difficultés comme contrepoids au vice. Mais quand on l'enferme entre deux vices, on le met à rude épreuve, comme ce fut le cas pour Origène. Ou se faire idolâtrer, ou subir charnellement un grand et vilain Éthiopien qu'on lui présentait. Il a accepté la première condition, à tort, dit-on. Mais à ce compte-là, celles qui prétendent aujourd'hui, en vertu de leur foi erronée, qu'elles aimeraient mieux avoir 10 hommes sur la conscience plutôt qu'une messe, n'auraient pas tort. S'il est indiscret de faire ainsi connaître ses erreurs, on ne court pas grand risque de les voir servir d'exemple et passer dans l'usage. C'est Ariston qui disait que les vents que les hommes craignent le plus, ce sont ceux qui les déshabillent le plus. Il faut retrousser ce haillot imbécile qui dissimule nos cœurs, meurt. On envoie sa conscience au bordel, mais on conserve une apparence convenable. Cela est vrai même des traîtres et des assassins. Ils acceptent les lois, les cérémonies et se font un devoir de les respecter. Ce n'est pourtant ni à l'injustice de se plaindre de l'incivilité, ni à la méchanceté de l'indiscrétion. C'est bien dommage qu'un méchant homme ne soit pas également un sot et que la décence de son comportement vienne atténuer son vice. Ces ornements ne sont faits que pour un mur sain qui mérite d'être conservé et blanchi. Je suis du même avis que les Huguenots qui nous reprochent notre confession secrète et privée, et je me confesse en public, scrupuleusement et complètement. Saint Augustin, Origène et Hippocrate ont fait connaître publiquement les erreurs de leurs opinions. Quant à moi, je le fais aussi pour ma conduite. J'ai un grand désir de me faire connaître et de combien de gens, peu m'importe, pourvu que ce soit véritablement. Ou pour mieux dire, je ne désire rien, mais je crains mortellement d'être pris pour ce que je ne suis pas, par les gens à qui il arrive de connaître mon nom. Celui qui n'agit que pour l'honneur et pour la gloire, Que pense-t-il à gagner à se montrer au monde sous un masque, dérobant son être véritable à la connaissance des gens? Si vous louez un bossu pour sa belle stature, il recevra cela comme une injure. Si vous êtes peureux et qu'on vous honore comme un vaillant homme, est-ce bien de vous que l'on parle? On vous prend pour un autre. Autant avoir de l'estime pour celui qui se félicite des courbettes qu'on lui fait, parce qu'on le croit maître de la troupe, alors qu'il n'en est que l'un des moindres de la valetaille. Comme Marquésilas, roi de Macédoine, passait dans la rue, quelqu'un versa de l'eau sur lui, et ceux qui étaient avec lui disaient qu'il fallait punir le coupable. « Oui, dit-il, mais il n'a pas versé de l'eau sur moi, seulement sur celui qu'il pensait que je fusse. » À celui qu'il avertissait qu'on disait du mal de lui, Socrate répondit « Pas du tout, il n'y a rien de moi dans ce qu'ils disent. » En ce qui me concerne, je n'aurai pas de grands remerciements à faire à celui qui me louerait d'être un bon dirigeant, d'être bien modeste ou bien chaste. Mais de même, je ne m'estimerai nullement offensé par celui qui me traiterait de voleur, de traître ou d'ivrogne. Ceux qui ne se connaissent pas bien peuvent se repaître de faux éloges, mais pas moi, qui me vois et qui m'explore jusqu'au tréfonds, et qui sait bien ce qui m'appartient. Je suis satisfait de recevoir moins de louanges, pourvu que je sois mieux connu. On pourrait me considérer comme un sage, mais en me prêtant une sagesse que je tiens pour de la sottise. Je regrette que mes essais soient pour les dames une sorte d'élément décoratif seulement pour leur salon. Ce chapitre me fera passer dans leur cabinet privé. J'aime avoir avec elles des relations un peu intimes, celles qui ont lieu en public ou en sans faveur et sans saveur. Au moment des adieux, nous portons à un degré plus élevé l'affection que nous portons aux choses que nous abandonnons. J'adresse un dernier adieu au jeu mondain. Voici nos dernières accolades. Mais venons-en à mon sujet. Qu'a donc fait aux hommes l'acte génital, si naturel, si nécessaire et si légitime, pour qu'on ose en parler sans honte et pour l'exclure des propos sérieux et convenables? Nous disons sans crainte tuer, dérober, trahir, et de cet acte-là, nous n'oserions parler qu'à demi-mot. Est-ce à dire que moins nous en parlons, plus nous avons le droit de le grossir en pensée? Car il est amusant de voir que les mots qu'on utilise le moins, qu'on écrit le moins, qui sont les mieux tus, sont ceux que l'on sait le mieux, qui sont les plus largement connus. Aucun âge, aucun type de caractère n'ignore la chose, pas plus que le pain. Les mots qui le disent se gravent en chacun de nous, sans être exprimés, sans voix et sans forme. Et le sexe qui le pratique le plus est aussi celui qui en parle le moins. C'est un acte que nous avons placé sous la garde du silence, et c'est un crime de l'en arracher, même pas pour l'accuser ni le juger. Nous n'osons le châtier que par des périphrases et en images. C'est une grande chance pour un criminel d'être si exécrable que la justice estime qu'on ne peut ni le toucher ni le voir. Le voilà libre, sauvé grâce à la sévérité de sa condamnation. N'en est-il pas comme pour les livres, qui se vendent d'autant mieux et d'autant plus de succès qu'ils sont interdits? Je vais, quant à moi, prendre au mot le point de vue d'Aristote, qui dit qu'avoir honte de cela est une coquetterie dans la jeunesse, mais un motif de reproche dans la vieillesse. Les vers qui suivent étaient à l'honneur dans l'Antiquité, période à laquelle je suis beaucoup plus attaché qu'à celle de maintenant, parce que ses vertus me semblent plus grandes et ses vices moindres. Ceux qui font trop d'efforts pour échapper à Vénus se trompent autant que ceux qui la servent de trop près. Puisque tu suffis, Vénus, à diriger la nature, et que sans toi rien ne s'élève au divin rival du jour, que sans toi rien ne se fait de joyeux ni d'aimable. Lucrèce, chant 1, vers 21-23. Je ne sais qui a pu faire s'opposer Pallas et les muses avec Vénus et les faire se méfier d'amour. Mais je ne vois pas de divinité qui aille mieux ensemble ou qui se doive plus les unes aux autres. Si on enlève aux muses leurs imaginations amoureuses, on leur dérobe leurs plus beaux sujets et la plus noble matière de leur ouvrage. Et si on prive l'amour du service que lui rend la poésie et de l'acquaintance qu'elle a avec lui, on l'affaiblit en lui ôtant ses meilleures armes. En agissant ainsi, on taxerait d'ingratitude et d'oubli le Dieu bienveillant qui réunit les êtres et les déesses protectrices de l'humanité et de la justice. Je ne suis pas depuis si longtemps rayé des listes des serviteurs de ce Dieu. Je conserve encore la mémoire de sa force et de sa valeur. Je reconnais les traces de mon ancienne ardeur, Virgile. Et il subsiste encore quelques chaleurs et émotions après la fièvre, et que cette chaleur ne m'abandonne pas dans mes années hivernales, disais-je en second. Tout asséché que je sois et que m'appesantis, je ressens encore quelques tièdes restes de cette ardeur passée. Ainsi la mer Égée, lorsque cessent l'Aquilon et le Notus de la secouer et de la bouleverser, ne s'abaisse pas aussitôt. Elle reste encore en mouvement et ses vagues demeurent grosses et agitées. Le Tasse. Mais à mon avis, la force et la valeur de ce dieu apparaissent plus vives et plus animées dans leurs évocations poétiques qu'elles ne le sont par elles-mêmes. Et le vers a des doigts pour chatouiller, Juvénal. La poésie nous présente je ne sais quel air plus amoureux que l'amour lui-même. Vénus n'est pas aussi belle, toute nue, vive et haletante, qu'elle ne l'est ici dans Virgile. Elle se tait, il hésite. Alors de ses bras d'une blancheur de neige, elle l'enlace et le réchauffe de sa douce étreinte. Il se sent envahi par cette flamme bien connue, ce feu qui le pénètre et se répand jusqu'à la moelle de ses os. Ainsi parfois, dans l'éclat du tonnerre, le sillon enflammé de l'éclair ouvre le ciel et se répand dans les nuages illuminés. Ayant dit, il cède à ses embrassements, et sur le sein de son épouse, voilà que le sommeil à son tour l'étreint, se répand dans ses membres. Virgile, chant 8. Ce que je trouve ici à méditer, c'est qu'il nous peint Vénus bien émoustillée par une épouse, pour une épouse. Dans ce marché raisonnable qu'est le mariage, les appétits sensuels ne sont pas si folâtres, mais ternes et comme émoussés. L'amour déteste que l'on soit attaché par d'autres liens que les siens et participe de mauvaise grâce aux arrangements qui sont établis et entretenus sous d'autres auspices comme le mariage. Les alliances et la fortune y ont leur part, avec raison, autant ou plus que les grâces et la beauté. On ne se marie pas pour soi, quoi qu'on en dise. On se marie tout autant, même plus, pour sa postérité, pour sa famille. La coutume du mariage et sa raison d'être concernent la lignée et va bien au-delà de nous. Et c'est la raison pour laquelle je préfère qu'il soit arrangé par des tiers plutôt que par ceux qui sont concernés, par le jugement des autres plutôt que par le leur. Oh, ce que je dis là est bien contraire aux conventions amoureuses. Mais c'est une sorte d'inceste que d'employer pour cette parenté vénérable et sacrée les efforts et les débordements de l'amour, comme je crois déjà l'avoir dit ailleurs. Aristote dit qu'il faut toucher sa femme avec précaution et retenue, de peur que si on la caresse trop lascivement, le plaisir la fasse sortir des gonds de la raison. Et ce qu'il dit à propos de la conscience, les médecins le disent pour la santé. Un plaisir excessivement ardent, voluptueux et répété, altère la semence et empêche la conception. Et ils ajoutent que pour remplir d'une légitime et fertile chaleur une union charnelle nonchalante par nature, il ne faut s'offrir à celle que rarement et à de notables intervalles. Pour que l'épouse avide des dons de Vénus s'en pénètre profondément, Virgile. Je ne vois pas de mariage plus fragile et qui échoue plus vite que ceux qui ont été suscités par la beauté et le désir amoureux. Il leur faut des fondements plus solides et plus sûrs, et il faut s'y avancer avec précaution. Une bouillante allégresse n'y convient pas. Ceux qui pensent faire honneur au mariage en y joignant l'amour font, me semble-t-il, la même erreur que ceux qui, pour honorer la vertu, prétendent que la noblesse n'est rien d'autre qu'une vertu. Ce sont bien des choses qui entretiennent quelques cousinages, mais ce sont aussi bien des différences. Il est inutile de mélanger leurs noms et leurs titres, et l'on fait du tort à l'une ou à l'autre en les confondant. La noblesse est une belle qualité, et elle a été introduite à juste titre, mais comme c'est une qualité qui dépend des autres, et qui peut tomber sur quelqu'un de vicieux et un bon à rien, on peut estimer qu'elle se situe bien en dessous de la vertu. Et si c'est une vertu, c'en est une qui est artificielle et visible. Elle dépend du temps et du hasard, elle est différente selon les pays. Elle est vivante et mortelle, elle n'a pas de source, pas plus que le Nil. Elle se transmet de génération en génération, elle est commune à bien des gens. Elle est fondée sur la succession et la ressemblance. C'est une simple conséquence et la raison en est bien faible. La science, la force, la bonté, la beauté, la richesse, toutes les autres qualités communiquent entre elles et peuvent s'associer. Mais celle-là se suffit à elle-même, elle n'est d'aucun secours pour personne d'autre. Comme on proposait à l'un de nos rois, pour une même charge, de choisir entre deux postulants, dont l'un était gentilhomme et l'autre non, il ordonna que l'on prenne celui qui aurait le plus de mérite, sans tenir compte de cette qualité, mais que dans le cas où la valeur des deux serait égale, on tienne compte de la noblesse, ce qui était lui donné exactement son rang. Antigonos répondit à un jeune homme inconnu de lui, qui lui demandait la charge tenue par son père, homme de valeur qui venait de mourir. « Mon ami, pour ce genre de faveur, je considère moins la noblesse de mes soldats que leur vaillance. » En vérité, il ne faut pas qu'il en soit comme autrefois pour les gens au service du roi de Sparte, trompettes, ménétriers, cuisiniers, dont la charge se transmettait à leurs enfants, pour ignorants qu'ils fussent, passant ainsi avant les plus expérimentés dans ces emplois. Les gens de Calicut considèrent les nobles comme une espèce supérieure à l'espèce humaine. Le mariage aurait interdit, de même que toute activité autre que la guerre. Ils peuvent avoir autant de concubines qu'ils le veulent, et les femmes autant d'amants sans qu'il y ait aucune jalousie entre eux. Mais c'est pour eux un crime mortel et irrémissible que de s'accoupler à une personne qui ne soit pas de leur caste, et ils se considèrent comme souillés s'ils ont simplement touché en passant une personne de ce genre. Leur noblesse risquant ainsi d'en être irrémédiablement altérée, ils tuent ceux qui se sont seulement approchés un peu trop près d'eux. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas nobles sont tenus de crier en marchant au coin des rues pour ne pas risquer de heurter quelqu'un comme font les gondoliers de Venise. Les uns évitent ainsi une ignominie qu'ils considèrent comme perpétuelle et les autres une mort certaine. Ni la durée, ni la faveur d'un prince, ni l'emploi, ni la vertu, ni la richesse ne peut faire qu'un roturier devienne noble. Et ceci est renforcé par le fait que les mariages sont interdits entre les corporations. Une femme issue d'une famille de cordonniers ne peut épouser un charpentier. Les parents sont donc contraints de former leurs enfants à exercer exactement le métier de leur père, et nul autre, entraînant ainsi la différence et la persistance de leur sort. Un bon mariage, s'il en est, refuse la présence de l'amour et les conditions qu'il impose. Il s'efforce de présenter celle de l'amitié. C'est un agréable cadre de vie, fait de constance et de confiance, et d'un nombre infini d'actes utiles et solides, et d'obligations mutuelles. Aucune femme qui en goûte la saveur, celle que le flambeau du mariage a unie à celui qu'elle désirait, Catulle, ne voudrait tenir lieu de maîtresse à son mari. Si elle a une place dans son affection en tant qu'épouse, elle y est bien plus honorablement logée et en toute sécurité. Et quand il fera ailleurs le joli cœur et l'empresser, qu'on lui demande qu'il préférerait voir, couverte de honte, sa maîtresse ou sa femme, de qui la mauvaise fortune l'abliferait le plus, à qui il souhaite le plus de grandeur, les réponses ne font aucun doute dans un bon ménage. Le fait qu'il s'en trouve si peu de bon témoigne de sa valeur. Si on le façonne bien, si on le prend bien, il n'y a pas de plus belle institution dans notre société. Nous ne pouvons nous en passer, nous l'avilissons pourtant peu à peu. Il en est comme des caches pour les oiseaux. Ceux qui sont à l'extérieur désespèrent de pouvoir y entrer, et ceux qui sont dedans ne rêvent que d'en sortir. Comme on demandait à Socrate ce qui était le mieux, prendre ou ne pas prendre femme. Il répondit, « Oh, quoi qu'on fasse, on le regrettera. » Le mariage est une convention à laquelle on peut tout à fait appliquer la formule « L'homme est pour l'homme, ou un dieu ou un loup. » Le bâtir demande la réunion de beaucoup de qualités. Il convient mieux de nos jours aux âmes simples, aux gens du peuple, parce que chez eux, les plaisirs, la curiosité, l'oisiveté ne le troublent guère. Un caractère un peu spécial comme le mien, qui répugne à toute liaison ou obligation, y est moins bien adapté. Il m'est plus agréable de vivre sans chaîne au cou. Tel que je suis, j'aurais évité d'épouser la sagesse elle-même si elle avait voulu de moi. Mais nous avons beau dire, la tradition, les usages de la vie en société nous entraînent. La plupart de mes actions m'ont été dictées par des exemples et non par des choix. Mais je n'ai pas personnellement choisi le mariage. On m'y a conduit. J'y fus amené par des causes extérieures. Car il n'y a pas que les choses ennuyeuses qui puissent devenir acceptables dans certaines conditions et par le fait du hasard. Il en est de même pour celles qui sont les plus mauvaises et les plus détestables, tellement l'attitude humaine est peu assurée. Et quand je fus amené au mariage, j'y étais certes plus mal préparé à ce moment-là et plus réticent que je ne le suis maintenant que je l'ai pratiqué. Et si libre demeure que je puisse paraître, j'ai en vérité suivi plus rigoureusement les lois du mariage que je ne l'avais promis ni même espéré. Il est plus tard de regimber quand on s'est laissé entraver. Il faut sagement préserver sa liberté. Mais, puisqu'on s'est soumis à cet engagement, il faut se plier aux lois du devoir commun, ou du moins s'y efforcer. Ceux qui passent ce marché dans un esprit de haine et de mépris agissent mal et injustement. Et cette belle règle que je vois les épouses se passer de main en main comme un saint oracle, « Sers ton mari comme ton maître et garde-toi de lui comme d'un traître », ce qui revient à dire « Comporte-toi envers lui avec une déférence contrainte, hostile et défiante », comme une sorte de cri de guerre et de défi, est aussi une attitude injuste et dommageable. Je suis trop doux pour nourrir des desseins aussi épineux. À vrai dire, je ne suis pas encore parvenu à ce point de perfection dans l'habileté et la galanterie spirituelle pour confondre la raison avec l'injustice et tourner en dérision tout ordre et règle qui ne s'accordent avec mes tendances. Ce n'est pas parce que je hais la superstition que je me jette aussitôt dans l'irréligion. Si l'on ne peut faire toujours son devoir, au moins faut-il toujours savoir le reconnaître et le chérir. C'est une trahison de se marier sans s'épouser. Mais poursuivons. Notre poète Virgile nous montre un mariage plein d'harmonie et bien assorti, dans lequel il n'entre pourtant pas beaucoup de loyauté. A-t-il voulu dire qu'il ne serait pas impossible de se livrer à l'amour, tout en conservant néanmoins quelque respect envers le mariage, et qu'on peut y faire un accroc sans le déchirer tout à fait? Tel valet qui fait son beurre aux dépens de son maître ne déteste pas pour autant ce dernier. La beauté, l'occasion propice, le destin, car le destin y met aussi la main. Il y a une fatalité attachée à ces parties intimes. Si les astres ne sont pas favorables, la taille surprenante de ton membre n'y pourra rien, dit Juvénal. Toutes ces choses-là ont attaché l'épouse à un inconnu, mais peut-être pas au point qu'il ne puisse lui rester quelques liens qui la retiennent encore à son mari. Ce sont là deux aventures qui ont des routes distinctes, séparées. Une femme peut se donner à quelqu'un qu'elle ne voulait nullement avoir pour épouser et à cause de sa position sociale, mais pour ce qu'il est en lui-même. Peu de gens ont épousé leur maîtresse, qui ne s'en soit repentie. Et même dans le monde céleste, Jupiter ne fait-il pas bien mauvais ménage avec sa femme, qu'il avait connue auparavant et dont elle avait joué lors de ses amourettes? C'est bien là, comme on dit, chier dans le panier et se le mettre sur la tête. J'ai vu de mon temps, dans quelques bonnes familles, guérir de façon honteuse et malhonnête l'amour par le mariage. Ces deux choses-là sont bien trop différentes. Nous pouvons aimer, cependant, et sans que cela nous gêne en rien, deux choses différentes et même contraires. Isocrate disait que la ville d'Athènes plaisait à la façon des dames que l'on sert par amour. Chacun aime à s'y promener, y passer son temps, mais nul ne l'épouse, c'est-à-dire ne l'aime au point d'en devenir familier et d'y habiter. J'ai vu avec dégoût des maris haïr leurs femmes pour la seule raison qu'ils leur sont infidèles. Il ne faut pas les aimer moins parce que nous commettons des fautes à leur égard. Elles devraient au contraire nous être plus chères encore, par repentir et compassion. L'amour et le mariage ont des fins différentes, mais elles sont pourtant compatibles d'une certaine façon, dit notre poète. Le mariage a pour lui l'utilité, la justice, l'honneur et la stabilité. C'est un plaisir fade, mais très général. L'amour repose sur le seul plaisir, et c'est vrai que ce plaisir est chez lui plus sensible, plus vif et plus aigu. C'est un plaisir aiguisé par la difficulté, à qui il faut des piqûres et des brûlures. Ce n'est plus de l'amour, s'il est sans flèche et sans feu. Les bontés des dames sont trop abondantes dans le mariage, et cela émousse la pointe de l'affection et du désir. Pour remédier à cet inconvénient, voyez la peine que se sont donnés Lycurgue et Platon dans leur loi. Les femmes n'ont pas tout à fait tort quand elles refusent les règles qui sont en usage dans le monde, puisque ce sont les hommes qui les ont établies sans elles. Il y a naturellement de la discorde et de la concurrence entre elles et nous. L'accord le plus étroit que nous puissions avoir avec elles est encore tumultueux et orageux. Selon Virgile, nous les traitons de façon inconséquente. Et voici pourquoi. Nous avons reconnu qu'elles sont, sans comparaison possible, plus ardentes et plus sensibles que nous aux effets de l'amour, comme ce prêtre de l'Antiquité qui avait été tantôt homme, tantôt femme, a pu en témoigner. Vénus, il la connaissait sous ses deux aspects, Ovide. Nous avons appris aussi de leur propre bouche qu'autrefois, à plusieurs époques, un empereur et une impératrice, que l'on peut dire orfèvre à la matière, et qui furent fameux pour cela, en donnèrent la preuve. Lui, en dépucelant en une nuit au moins 10 vierges sarmates captives, Et elle, en supportant réellement 25 assauts en une seule nuit, changeant de partenaire selon son besoin et son goût. La vulve encore ardente, elle se retira, épuisée par les hommes, mais non assouvie. Juvénal 628. Dans un différend survenu en Catalogne, une femme se plaignait de ce que les assauts de son mari étaient trop assidus. À mon avis, ce n'était peut-être pas tant qu'elle en était incommodée, car je ne crois qu'au miracle de la religion, que pour effréner et même brider sous ce prétexte l'autorité des maris sur leurs femmes, ce qui est pourtant justement l'aspect fondamental d'un mariage. C'était peut-être aussi pour montrer que leur hargne et leur malignité se moquent de la couche nuptiale et foulent aux pieds les grâces et les douceurs même de Vénus. Donc son mari, homme véritablement dénaturé et bestial, avait répondu que même les jours de jeûne, il lui fallait faire la chose au moins 10 fois. Alors la reine d'Aragon, après mûre délibération du conseil, pour fixer une règle et donner un exemple valable en tout temps de la modération et de la mesure qui conviennent dans un mariage, rendit un arrêt mémorable qui fixait à 6 par jour les bornes légitimes et nécessaires pour cette activité. En cela, elle abandonnait une grande part du besoin et du désir de son sexe et l'atténuait pour établir, disait-elle, un usage aisé et par conséquent permanent et immuable. Et les docteurs de s'écrier quels doivent être le désir et la concupiscence féminine pour que leur raison, leur sens moral et leur vertu les aient amenés à ce chiffre. C'est qu'ils considéraient à quel point l'évaluation de nos appétits sexuels sont sujets à variation, puisque Solon, chef de file de l'école juridique, fixa 3 fois par mois seulement l'accomplissement de l'acte pour qu'on ne risque pas d'y être pris en défaut, ce qui est une hantise conjugale. Et après avoir cru y rapporter tous ces exemples, c'est quand même aux femmes que nous avons imposé tout spécialement la continence, sous peine de châtiments suprêmes et extrêmes. Il n'est pas de passion plus exigeante que celle-là, et nous voulons qu'elle seule y résiste, non seulement comme à un vice quelconque, mais comme à quelque chose d'abominable et d'exécrable, pire que l'irreligion ou le parricide. Et pendant ce temps, nous autres, nous nous y livrons sans ressortir de faute et sans nous faire de reproches. Ceux-là même qui parmi nous ont essayé d'en venir à bout ont suffisamment reconnu combien c'était difficile, voire impossible, même en usant de remèdes matériels, de mater et affaiblir et refroidir le corps. Et elles, au contraire, nous les voulons saines, vigoureuses, en bonne santé, bien nourries, et chaste tout ensemble, c'est-à-dire chaudes et froides en même temps. Car le mariage, dont nous disons qu'il doit avoir pour fonction de les empêcher de brûler, leur apporte en fait peu de rafraîchissement de la façon dont nous conduisons. Si elles en choisissent un dont l'âge offre encore un bouillant de vigueur, il se fera gloire d'aller les pendre ailleurs. Allons de la pudeur ou allons devant la justice. J'ai payé très cher pour ton membre, Bassus. Il n'est plus à toi. Tu l'as vendu. Martial. Le philosophe Polémon fut à juste titre traduit en justice par sa femme, parce qu'il allait semant en champ stérile le fruit qui était dû au champ génital. Quand elles prennent des vieux maris cassés par les ans, les voilà en plein mariage dans une situation pire que celle des vierges ou des veuves. Nous les considérons comme bien pourvues parce qu'elles ont un homme à leur côté, et tout comme les Romains ont tenu pour violée la respectable Claudia Laeta, que Caligula avait approchée, et bien qu'il fût avéré qu'il l'avait juste seulement approchée. Mais d'un autre côté, on renforce par là leurs besoins, parce que le contact et la compagnie de quelque mâle que ce soit éveillent leur ardeur, qui demeurait plus calme dans la solitude. Et c'est pourquoi, vraisemblablement, dans le but de rendre leur chasteté plus méritante, Boleslav et Kingé, sa femme souverain de Pologne, la consacrèrent d'un commun accord par un vœu le jour même de leurs noces, alors qu'ils étaient couchés ensemble et s'y maintinrent, faisant fi des commodités maritales. Nous formons les femmes dès l'enfance au stratagème de l'amour. Leur grâce, leur parure, leur savoir, toute leur instruction n'est faite que dans ce but. Leurs gouvernantes ne leur mettent en tête rien d'autre que le visage de l'amour, ne fût-ce qu'en leur représentant constamment pour les en dégoûter. Ma propre fille, oh, je n'ai qu'elle comme enfant, est à l'âge où les lois autorisent les plus ardentes à se marier. Mais elle n'est pas très avancée pour son âge, mince et douce, elle a été élevée par sa mère, selon ce tempérament, en privé et à l'écart des autres, si bien qu'elle ne fait que commencer à se défaire de la naïveté de l'enfance. Elle lisait devant moi un livre en français. Le mot de « fouteau » s'y trouva. C'est le nom d'un arbre connu. Sa gouvernante l'arrêta net, un peu brutalement, et lui fit sauter ce mauvais passage. Je les laissais faire pour ne pas venir troubler leur convention, car je ne m'occupe pas du tout de cette éducation. La société des femmes a des aspects mystérieux qu'il fait leur laisser. Mais, si je ne me trompe, la fréquentation de 20 laquais pendant 6 mois n'aurait pu imprimer dans son imagination l'idée, l'usage et toutes les conséquences du son de ces syllabes scélérates, aussi bien que le fit cette bonne vieille, par sa réprimande et son interdiction. La vierge précoce se plaît aux danses sioniennes. Elle se torture les membres. Depuis sa tendre enfance, elle rêve à des amours impudiques. Horace. Que les femmes se dispensent un peu des règles de la bienséance, qu'elles se mettent à parler librement, et nous ne sommes plus que des enfants auprès d'elles dans cette science-là. Écoutez-les décrire nos façons de faire la cour et nos conversations. Elles nous montrent fort bien que nous ne leur apportons rien qu'elles n'aient déjà su et assimilé sans nous. Serait-ce donc, comme le prétend Platon, qu'elles ont été autrefois des garçons débauchés? J'eus l'occasion un jour de me trouver dans un endroit où je pouvais saisir tout ce qu'ils disaient entre elles sans éveiller de soupçons. Que ne puis-je les rapporter? Par Notre-Dame, me suis-je dit, allons de ce pas étudier les faces d'Amadis et les livres de Boccace et de l'Arétin pour faire les malins. Nous perdons notre temps. Il n'est pas de mots, ni d'exemples, ni de façon de se comporter qu'elles ne connaissent mieux que nos livres. C'est une science qui naît dans leurs veines, inspirée par Vénus elle-même, une science que leur instille continuellement dans l'âme ces bons maîtres d'école que sont la nature, la jeunesse, la santé. Elles n'ont que faire de l'apprendre, elles l'engendrent. Jamais la blanche colombe ou quelque autre oiseau, plus lascif encore qu'on pourrait nommer, n'a de son bec plus ardemment cherché les baisers que la femme qui s'abandonne à la passion. Catulle. Si l'on avait tenu un peu en bride, par la crainte et le sentiment de l'honneur qu'on leur a inculqué, la violence naturelle de leurs désirs, nous étions perdus. Tout le mouvement du monde conduit à cet accouplement et s'y résume. C'est quelque chose qui est diffus en tout, un centre vers quoi tout converge. On peut voir encore des ordonnances édictées pour le service de l'amour par la vieille et sage Rome, et les préceptes de Socrate pour l'instruction des courtisanes. Les petits livres stoïciens ne détestent pas traîner sur leur coussin de soie. Dans ces lois, Zénon réglait aussi les écartements et les secousses du dépucelage. Et quel était le sens du livre de Straton, de la conjonction charnelle? Et de quoi donc traitait Théophraste dans ce qu'il intitula l'un l'amoureux, l'autre de l'amour, et Aristippe dans le sien des délices antiques. Que cherchent à faire les descriptions si étendues et si vivantes chez Platon des amours de son temps? Et le livre intitulé « De l'amoureux » de Démétrios de Phalère, et Clignas ou l'amoureux forcé d'Héraclite Dupont, celui d'Antisthène de la façon de faire des enfants, ou des noces, ou cet autre intitulé du maître ou de l'amant. Aristo a traité des exercices amoureux, Cléante a écrit de l'amour et de l'art d'aimer, et que dire des dialogues amoureux de Sphéros? Quant au conte sur Jupiter et Junon de Chrysippe, il est éhonté au-delà du supportable, sans parler de ses 50 épîtres tellement lascives. Et je laisse de côté les écrits des philosophes de l'école épicurienne, si favorables à la volupté. 50 divinités étaient autrefois affectées spécialement au service de l'amour. Et il s'est trouvé un peuple chez qui, pour endormir la concupiscence de ceux qui venaient faire leur dévotion, on tenait à leur disposition dans les temples des filles et des garçons pour qu'ils en tirent du plaisir, et le fait de s'en servir avant de venir à l'office faisait partie du cérémonial. Il ne faut pas s'en étonner, car l'incontinence est nécessaire à la continence, et on éteint l'incendie par le feu. Presque partout dans le monde, cette partie de notre corps était déifiée. Dans une même région, les uns s'écorchaient le membre viril pour en consacrer un morceau aux dieux, les autres consacraient leurs semences et en faisaient offrande. Dans une autre, les jeunes hommes se le transperçaient publiquement et l'incisaient en divers endroits, entre peau et chair, pour y enfiler des baguettes de bois, les plus longues et les plus grosses qu'ils pouvaient supporter. Ils faisaient ensuite du feu avec ces baguettes pour en faire offrande à leurs dieux, et celui qui ne pouvait supporter la violence de cette douleur était considéré comme peu vigoureux et peu chaste. Ailleurs, on reconnaissait celui qui serait le magistrat le plus sacré, en examinant ces parties-là, et on emportait l'effigie en grande pompe dans plusieurs cérémonies célébrées en l'honneur de diverses divinités. Les dames égyptiennes, lors de la fête des bacchanales, emportaient un au cou en bois très joliment sculpté, grand et lourd, adapté à la force de chacune. Et la statue de leur dieu en présentait un dont la taille dépassait le reste de son corps. Pas loin d'ici, les femmes mariées en donnent la forme à leur chapeau, qu'elles placent sur leur front, pour se glorifier du plaisir qu'elles en ont. Et quand elles deviennent veuves, elles le rejettent en arrière, caché sous leurs cheveux. À Rome, les matrones les plus sages considéraient comme un honneur d'offrir des fleurs et des couronnes à la statue du dieu Priape, et l'on faisait asseoir les vierges le soir de leurs noces sur ces parties honteuses. Et de nos jours encore, j'ai vu, me semble-t-il, quelque chose qui ressemblait à cette dévotion. Que signifiait d'autre cette pièce ridicule sur les choses de nos ancêtres que l'on voit encore chez les Suisses? Et à quoi sert l'ostentation actuelle de nos parties intimes? Sous nos culottes et bien souvent, ce qui est pire, avec une exagération de leur dimension naturelle, par stratagème et imposture. Je suis tenté de penser que cette sorte de vêtement fut inventé dans les siècles les meilleurs, les plus sérieux, afin de ne pas tromper les gens. Chacun peut ainsi rendre compte publiquement de ce dont il dispose effectivement. Les peuples les plus simples l'ont encore, et il y a quelque rapport avec la réalité. On donnait pour cela des informations à l'ouvrier, comme on le fait pour le bras ou le pied. Un noble personnage dans ma jeunesse fit émasculer quantité de belles statues antiques dans sa grande ville pour ne pas choquer le regard des gens. Il suivait en cela la vie d'un autre personnage de l'Antiquité. C'est une cause de trouble que de montrer en public la nudité. Ennius. Mais il aurait dû se douter, à l'exemple du mystère de la bonne déesse, où toute apparence masculine était interdite, que cela ne suffisait pas et qu'il lui fallait encore castrer les chevaux, les ânes et finalement la nature tout entière. Car tous les êtres qui vivent sur la terre, hommes et bêtes, habitants des eaux, troupeaux, oiseaux multicolores, courent poussés par les feux de l'amour. Virgile, chant 3.